Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu.
Louons à toi, Seigneur Jésus.
Le Christ, c'est l'unique pasteur. Il n'y en a qu'un. Et c'est lui qui nous rassemble, aujourd'hui encore, pour prendre soin de chacun de nous et du troupeau tout entier, c'est-à-dire l'Église que nous formons. Pour que la mission du bon pasteur soit assurée partout, dans tous les temps, le Christ a institué le collège des apôtres, les 12. Et cette mission pastorale est assumée aujourd'hui par les évêques, collégialement successeurs des apôtres, dans chacune des églises locales qui leur est confiée. Les évêques s'adjoignent par l'ordination des collaborateurs de leur mission pastorale. Vous-même, frères et sœurs en Christ, pour continuer à être ce peuple rassemblé par le Christ, vous avez besoin de pasteurs. Même si vous vous prenez en charge de plus en plus dans diverses responsabilités, même si vous avez à cœur d'assurer tout ce qui est nécessaire à la vie et au dynamisme de vos communautés locales, vous ne pouvez pas être le peuple de Dieu. Vous ne pouvez pas être l'Église du Christ sans cette relation au ministère ordonné, diacre, prêtre et évêque. On ne peut pas faire Église sans prêtre. Et il faut le redire, même si de façon heureuse les laïcs se mobilisent et s'impliquent dans la vie de l'Église, l'Église garde un urgent besoin de prêtres, parce qu'il en va de son identité et de sa mission. L'Évangile nous laisse entrevoir les sentiments profonds qui habitent le Christ et qui doivent habiter ceux qui s'avancent pour recevoir l'ordination ce soir. C'est pour cela, dit Jésus, que le Père m'aime, parce que je donne ma vie, littéralement je dépose ma vie. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. Chaque prêtre est ainsi ministre, serviteur, parce que la charité du Père, qui se déploie dans la mission du Fils, devient en chaque prêtre charité pastorale. Elle pousse le prêtre à se donner lui-même, à déposer sa vie, et c'est le sens du geste que vous ferez tout à l'heure, en vous mettant face contre terre. Votre vie, comme le Christ, personne ne vous la prend. C'est vous qui la donnez ce soir au Christ et à l'Église. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, déposer sa vie pour ses amis. Votre ministère, Christophe, Georges et Paul-Antoine, sera tout entier engagé dans cette dynamique du dépôt de votre vie, de la remise de soi au Père et de la charité pastorale envers tous les hommes destinés à connaître l'Évangile et à se rassembler en fraternité croyante. Devenir prêtre diocésain, c'est une forme noble de l'exercice du ministère. Votre vocation personnelle vous met en état de service de la population de cette région qui est la vôtre et que vous choisissez aujourd'hui de servir comme prêtre. Vos chaussures porteront la terre des chemins de Corse que vous allez sillonner inlassablement à la rencontre des gens pour leur annoncer l'Évangile. Vous êtes solidaire et vous deviendrez de plus en plus solidaire par votre ministère de l'histoire personnelle autant que collective des hommes et des femmes de cette terre. Vous vous laisserez toujours davantage façonner par cette culture que l'Évangile doit continuer à ensemencer et à féconder comme il le fait depuis plusieurs siècles. Compagnons d'humanité avec les hommes et les femmes de Corse, à cause de l'appel du Christ, comme le rappelait saint Paul tout à l'heure, serviteurs à cause du Christ, vous serez parmi eux des serviteurs de réconciliation et de communion. Le service auquel l'Église vous appelle, c'est l'expression de cet incroyable amour du Père pour l'homme, pour tout homme, et en priorité pour le fragile, le souffrant, l'exclu, l'isolé, le malade ou l'étranger. Vous serez les serviteurs de l'œuvre de réconciliation que l'Église doit poursuivre au nom du Christ, qui par sa croix a fait tomber le mur de la haine qui divisait les hommes. Vous ferez l'expérience que c'est une source de joie profonde chaque fois que par notre ministère nous permettons que redevienne possible un peu de fraternité, de réconciliation et de solidarité entre des personnes et des groupes humains différents, parfois même opposés ou ennemis. Vous serez les pasteurs selon le cœur de Dieu. Chaque fois que vous serez les serviteurs fidèles et attentifs de la réconciliation vécue dans le quotidien de la vie des hommes jusque dans la forme sacramentelle. Vous êtes appelés aussi à être serviteurs de l'unité et de la communion dans la rencontre et l'écoute patiente des différents groupes de chrétiens. Tel un tisserand laborieux, vous nourrez des liens de connivence, de partenariat entre des chrétiens de situations, de conditions, d'opinions ou de générations diverses. Le service de l'unité trouvera sa source et son expression sacramentelle dans la célébration de l'Eucharistie que vous présiderez dans les communautés auxquelles vous serez envoyés. Soyez vigilants, chers frères, pour que le service de l'Eucharistie ne se réduise jamais à un service de distribution mécanique du corps du Christ, mais que toute Eucharistie demeure une fête de l'unité avec le Seigneur et entre nous, une célébration de la communion que vous servez avec passion et bien au-delà du seul moment de la messe. C'est parce que vous porterez sans vous lasser le souci de la cohésion de la communauté pour la mission. C'est parce que vous garderez brûlante la flamme de la mission dans vos communautés que vous présiderez l'Eucharistie. Toute votre vie sera désormais ordonnée au service de la communion entre les hommes, par-delà tout particularisme ou toute position partisane. Frères et sœurs, les prêtres sont signes du Christ ressuscité, vivant aujourd'hui dans son Église et qui continue de rassembler, de nourrir, d'envoyer ses disciples pour annoncer aux hommes l'Évangile. C'est pour cela d'abord que vos communautés ont besoin du ministère de Christophe, de Georges et de Paul-Antoine et des autres prêtres qui les accueillent aujourd'hui dans le presbytérium. Le lien des communautés avec les prêtres, c'est une question difficile aujourd'hui parce qu'elle se pose dans une nouvelle donne, dans un nouveau contexte. J'entends souvent des chrétiens se plaindre, parfois récriminés, parce qu'ils ont le sentiment d'être délaissés par les prêtres devenus moins nombreux. Certes, je comprends l'exigence légitime des chrétiens qui aspirent à avoir des pasteurs selon le cœur de Dieu, des prêtres zélés au service de leur communauté, animés d'une vie spirituelle profonde et rayonnante. Vous avez raison d'être exigeant pour vos prêtres, attendant qu'ils soient habités intérieurement par l'amour du Christ et la passion de le faire connaître et aimer. Mais je vous avoue, puisqu'on est entre nous ce soir, qu'il m'arrive de m'interroger parfois sur le type d'exigence que des chrétiens portent à l'égard de leurs prêtres et qui souvent, il faut le reconnaître, relève d'un passé révolu, souvent idéalisé. Frères et sœurs, interrogez-vous sur les prêtres que vous attendez. Quels prêtres attendez-vous? Et pourquoi les attendez-vous? Voulez-vous des hommes prestataires de services religieux, disponibles au moment où vous en avez besoin, comme pouvait l'être jadis le curé d'une seule paroisse dans un seul village? Ou bien avez-vous besoin d'hommes animés par l'Esprit du Christ, habités par la passion de l'Évangile, qui entretiennent en eux et en vous l'amour du Christ, le désir de le faire connaître et aimer, et la volonté de vous rassembler dans des espaces ecclésiaux déployés? En pressant les prêtres de nos demandes, est-ce que nous leur laissons le temps du repos réparateur, mais aussi le temps de la lecture, de la formation et surtout de la prière? Acceptons-nous que le prêtre se réserve du temps pour se réunir régulièrement en équipe pastorale, pour prier, écouter la parole de Dieu, relire son action pastorale avec ses confrères que le Seigneur lui donne comme compagnon de sa mission? Je vous en conjure, frères et sœurs, si vous êtes exigeants envers vos prêtres pour le dynamisme apostolique, alors laissez-leur le temps d'être des priants, laissez-leur le temps d'être collaborateurs de l'évêque au sein d'un presbytérium qui doit pouvoir se réunir régulièrement pour discerner les chemins de la mission et puiser auprès du Seigneur à la source de leur fidélité apostolique. Un prêtre isolé est un prêtre en danger et il ne pourra durablement vivre son ministère de façon satisfaisante. Je le dis avec gravité aux communautés chrétiennes de notre diocèse. Prenez soin des prêtres que je vous envoie au nom du Seigneur. Ils ne sont pas des fonctionnaires du culte, mais ils sont des frères qui vous sont donnés comme compagnons de route pour soutenir votre fidélité dans votre vocation de baptiser. Laissez-les être des priants. Laissez-les être des accompagnateurs de vos cheminements dans la foi. Laissez-les être des missionnaires qui vous entraînent, vous bousculent parfois, parce qu'il est urgent d'annoncer l'Évangile à tous. Mais au-delà de cet aspect, il y a aussi les conditions mêmes de l'exercice du ministère de prêtre qui se modifient profondément. Même s'il s'agit du même ministère presbytéral, Christophe, Georges et Paul-Antoine ne vont pas exercer ce ministère qu'ils reçoivent aujourd'hui dans les mêmes formes qu'hier. Les évolutions de la société ont créé des conditions nouvelles pour la mission de l'Église et pour la vie des communautés. Cela demande, et j'en suis témoin, beaucoup de souplesse et beaucoup de profondeur spirituelle pour les prêtres, mais aussi pour les communautés de fidèles, pour accepter ces évolutions dans la fidélité au Seigneur. Vous savez, l'alternative, elle est simple. Ou bien on se crispe sur des formes du passé et on se ferme alors à l'Esprit du Christ pour se limiter à la lettre de nos habitudes et de nos routines. Cela compromet gravement l'avenir de notre Église et surtout celui de l'Évangile parmi les hommes. Ou bien, et c'est le chemin que je veux emprunter avec vous, on se laisse ensemble guider par l'Esprit sur des chemins nouveaux, inattendus et surprenants pour la mission. Il nous faudra comprendre les situations, souvent complexes. Il nous faudra ensemble relire notre action, oser de nouvelles propositions pastorales et collaborer pour cela de plus en plus entre laïcs, prêtres, diacres et religieux, mobiliser ensemble dans le service d'une Église audacieuse et inventive pour la mission. Christophe, Georges et Paul-Antoine, je suis incapable ce soir d'établir un descriptif précis des tâches qui vous attendent, même si tout à l'heure, le vicaire général vous donnera communication de la lettre de mission que je vous donne. La signification de l'obéissance du prêtre et la disponibilité permanente à l'imprévu des appels de la mission d'annonce de la bonne nouvelle. L'aventure dans laquelle l'Esprit du Christ vous embarque avec l'Église n'est pas inédite. Dans quelques instants, au moment où vous serez allongé, signe de cette remise de vous-même entre les mains du Seigneur pour l'Église et pour les hommes, nous allons invoquer tous les saints qui nous ont précédés, qui ont tracé un chemin de sainteté en fidélité au Christ et à leur époque. Ils ne demandent pas que nous reproduisions de façon mimétique ce qu'ils ont vécu, mais ils nous invitent tous à la confiance dans l'Esprit et dans l'Église. Chers amis, laissez-vous éclairer et pousser par l'Esprit que vous allez recevoir par l'imposition des mains. Laissez-vous habiter par la confiance en l'Église qui discerne avec vous et tous les membres du peuple de Dieu les chemins de la fidélité à l'appel toujours neuf du Christ pour la mission d'annonce de l'Évangile. En étant fidèles et réguliers dans les rencontres pastorales, aux différents conseils du peuple de Dieu, vous participerez en pleine communion avec votre évêque au discernement de ce que l'Esprit dit à l'Église en Corse et vous travaillerez avec ces différents conseils et avec vos confrères dans le ministère à définir des orientations qui ouvriront les chemins d'avenir pour l'Église du Christ. Dans ces rencontres, dans ces conseils, vous mettez aussi en œuvre votre responsabilité de pasteur. Par le don de vous-même, que vous allez exprimer publiquement par le dialogue avec l'évêque et la prostration, vous permettez au Christ d'être aujourd'hui le bon et l'unique pasteur au sein de son Église en Corse. Comme évêque, celui qui a été appelé à guider pour un temps l'Église du Christ en Corse, je suis heureux de vous recevoir parmi les autres prêtres, comme les collaborateurs que le Seigneur me donne pour accomplir la mission qu'il m'a confiée. L'évêque n'est pas un patron qui embauche, mais un envoyé du Christ pour lui permettre d'être aujourd'hui parmi vous, frères et sœurs chrétiens, le pasteur qui prend soin de vous et qui vous mobilise inlassablement pour devenir les témoins de l'Évangile. Christophe, Georges et Paul-Antoine, notre joie est grande de vous recevoir comme prêtres pour notre Église. Les prêtres, tout à l'heure en venant vous imposer les mains, manifesteront ce geste d'accueil dans le presbytérium. Que le Seigneur nous donne d'être à la hauteur de ce beau cadeau qu'il nous fait ce soir. Que chacun et chacune de nous soit renouvelé dans la grâce de son baptême, de sa confirmation ou de son ordination. Christophe, Georges et Paul-Antoine, je compte comme évêque sur votre amitié, sur votre prière, sur votre fidélité et votre loyauté dans le service sacramentel de l'Église qui fonde notre relation fraternelle et qui nous accrédite ensemble pour la mission de l'unique pasteur. Amen.